Chapitre 8. Le faux témoignage de la pendule. Nous nous regardâmes un instant sans parler. Nous avions besoin tous deux de nous remettre de notre émotion. On se demandera probablement quelle était l'accusation à laquelle avait eu à répondre Dubourg et ce qu'avait à faire une pendule dans tout ceci. Voici les détails de ce procès que je trouve dans un compte-rendu qui est en ma possession. Je continuerai par la suite et en résumant ce compte-rendu aussi brièvement que possible à me servir pour ma nouvelle connaissance du nom de Dubourg. C'était le nom de famille de sa mère. Notre petit drame se passe à Dymchurch vers l'année 1858 ou 1859. Peu importe les véritables noms des personnes qui y ont joué un rôle. Un soir d'été, il y a de cela quelques années, on trouva dans un champ situé près d'une ville de l'ouest de l'Angleterre un homme assassiné. Ce champ s'appelait le champ du pardon. L'homme était entrepreneur de charpente dans la ville et il y jouissait d'une assez médiocre réputation. Le soir du crime, un de ses parents éloignés, employé en qualité de régisseur dans une ferme du voisinage, vint à passer près de là. Il vit Dubourg franchir rapidement une petite barrière que les piétons enjambaient pour passer du champ dans la route. Ils se croisèrent, allant en sens opposé. Environ une demi-heure après, le régisseur revint sur ses pas. En atteignant la barrière, il entendit des clameurs. Il entra dans le champ pour en savoir le motif. Il vit au bout opposé du champ des gens accourus vers un jeune garçon qui, debout derrière une étable, poussait des cris de terreur. En arrivant, on trouva à ses pieds un homme couché à plat ventre et le crâne défoncé. La montre de la victime, qui pendait à terre, soutenue par la chaîne, s'était arrêtée évidemment par suite du choc et marquée 8h30. Les quelques objets de valeur que portait cet homme étaient intacts. Le régisseur reconnut dans ce cadavre encore chaud celui de son parent le charpentier. À l'enquête préliminaire, on trouva par induction que le coup mortel avait dû être donné à 8h30, heure à laquelle s'était arrêtée la montre trouvée sur le cadavre. Il s'agissait ensuite de savoir si l'on avait vu quelqu'un passer à 7h ou vers 7h près du champ du pardon. C'est alors que le régisseur vint déclarer qu'il avait vu Dubourg franchir la barrière qui séparait le champ de la route. Il était alors 8h30. On lui demanda s'il avait regardé sa montre. Il répondit qu'il ne l'avait pas fait, mais que, grâce à certains détails qui s'étaient fixés dans sa mémoire, il était convaincu qu'il ne se trompait pas sur la question de l'heure. On le pressa sur ce point capital, mais il continua d'affirmer qu'il avait vu Dubourg s'éloigner rapidement du champ du pardon à l'heure que marquait la montre, c'est-à-dire à 8h30. À une autre question qu'on lui posa, il répondit qu'il n'avait vu que Dubourg dans le voisinage du champ, à l'heure où l'assassinat avait été commis. L'instrument qui avait servi à perpétrer le crime n'avait pas été découvert. Comme il était évident que le vol n'avait pas été le mobile du crime, il fallait rechercher, si on ne le trouverait pas, parmi les gens équivoques que fréquentait la victime, quelques rancunes personnelles. Mais les soupçons ne purent se fixer d'une manière précise sur ces hommes et ces femmes de mauvaise vie qu'ils fréquentaient au su et vu de tout le monde. Les choses en vinrent à ce point que la justice n'eut d'autre alternative que d'exiger que Dubourg, qui vivait de ses rentes et jouissait dans la ville et dans le voisinage d'une excellente réputation, vint lui rendre compte de ses faits et gestes. Tout en reconnaissant avoir franchi la barrière qui séparait le sentier de la route après avoir traversé le champ, il se mit en contradiction avec le régisseur en déclarant avoir regardé sa montre et avoir vu qu'il était 8h15 précises au moment où il passait sur la route. 5 minutes après, c'est-à-dire 10 minutes avant l'assassinat, il était allé rendre visite à une dame qui demeurait tout près de là et, au moment de la quitter, il avait de nouveau consulté sa montre. Il était alors 9h15. C'était se disculper en invoquant ce qu'on appelle un alibi. Mais la justice, plus difficile que les amis de Dubourg, voulut entendre la déposition de la dame en question et, en attendant sa comparution, on demanda simplement pour la forme à Dubourg s'il connaissait personnellement la victime. Il avoua, en se troublant quelque peu, qu'un de ses amis lui avait recommandé cet homme pour lui confier de l'ouvrage. Voici en substance les faits qui ressortirent de l'interrogatoire qu'on lui fit subir à la suite de cette réponse. Les travaux avaient été fort mal exécutés et le charpentier avait présenté un mémoire exorbitant. Dubourg s'était récrié et, à la suite d'une vive altercation où cet homme s'était montré d'une rare grossièreté, il l'avait saisi au collet et jeté à la porte en l'appelant affreux coquin et en lui faisant la menace, ou une menace équivalente, de l'assommer s'il avait le malheur de se montrer près de la maison. Il ajouta qu'en se calmant, il avait regretté sa violence et il jura qu'à partir de ce moment, c'est-à-dire 6 semaines auparavant, il n'avait pas revu cet homme. À ce point de l'enquête, les choses avaient pris une tournure malencontreuse pour Dubourg, mais c'était tout. N'avait-il pas, en effet, la ressource d'invoquer son alibi et la bonne réputation dont il jouissait? Le résultat favorable de l'enquête ne faisait pour personne l'ombre d'un doute. C'est alors que la dame à laquelle Dubourg avait rendu visite vint faire sa déposition. Confrontée avec l'accusé et sommée de préciser l'heure à laquelle il l'avait quitté, cette dame réfuta ce qu'il avançait en se basant sur l'heure que marquait une pendule placée sur la cheminée de son salon. Elle avait, au moment où Dubourg entrait, jeté l'œil sur le cadran en faisant la réflexion qu'il était bien tard pour faire une visite. La pendule, réglée et mise à l'heure la veille par l'horloger même qui la lui avait vendue, marquait 9h-25. On avait trouvé, expérience faite, qu'il fallait, en marchant d'un pas rapide, 5 minutes tout juste pour aller de la barrière à la maison de la dame. 2 témoins honorables étaient donc d'accord sur ce point important. On constata que la pendule marchait bien et l'horloger qu'il avait fabriqué déclara qu'il en gardait la clé et qu'il n'avait aucune raison pour remonter ou régler la pendule de nouveau, puisqu'il avait fait de sa propre main la veille de la visite de Dubourg et qu'elle marchait parfaitement. En face de tels faits, il fallut bien se rendre à l'évidence. On en vint à conclure que l'accusé s'était trouvé dans le champ au moment où l'assassinat avait été commis, qu'il avait eu antérieurement une dispute suivie de voies de fait et de menaces avec le charpentier, et qu'enfin, il avait, quant à la visite à la dame, fait une déclaration fausse dans le but de tromper la justice et d'établir un alibi. Le devoir des magistrats était de l'appeler à comparaître aux assises pour répondre à l'accusation d'assassinat commis sur la personne du charpentier dans le champ du Pardon. Les débats durèrent 2 jours. On ne découvrit aucun fait nouveau important en dehors de ceux qui étaient déjà connus. L'interrogatoire des témoins suivit le même cours que pendant l'examen préliminaire, si ce n'est le soin plus minutieux que l'on mit à éplucher les dépositions. Dubourg avait 2 avantages pour lui. D'abord, d'avoir pour défenseur l'avocat le plus renommé pour les causes capitales et la profonde sympathie des jurés qui n'avaient qu'un désir, celui de voir son innocence mise au jour. À la fin du premier jour des débats, les dépositions accablèrent l'accusé avec une force tellement irrésistible que son défendeur perdit tout espoir de le sauver. Lorsque le prévenu revint le second jour s'asseoir au banc des accusés, l'opinion était unanime. Tout le monde disait « Cette pendule le fera pendre ». Il était à peu près 2 heures et la cour allait suspendre les débats pour une demi-heure lorsque l'avoué de l'accusé tendit un papier à son défenseur. Celui-ci se leva en proie à une émotion qui excita la curiosité de tout l'auditoire. Il demanda qu'on entendît un témoin dont la déposition était d'une telle importance pour l'accusé qu'on ne devait pas remettre d'un instant sa comparution devant la cour. Après une courte discussion entre les avocats pour l'accusation et pour la défense, il fut décidé que l'on continuerait l'audience sans interruption. Le témoin qui se présenta était une jeune femme qui paraissait relever de maladie. Elle était, à l'époque où le meurtre avait été commis, domestique chez la dame à laquelle l'accusé était allé rendre visite dans la soirée. Le lendemain, sa maîtresse lui avait permis de s'absenter pendant 1 semaine pour aller voir sa famille qui demeurait dans l'ouest des Cornouailles. Arrivée là, elle était tombée malade et n'avait pu recouvrer ses forces à temps pour reprendre son service. Après cette première déclaration, cette fille donna sur la pendule de sa maîtresse les singuliers détails qui suivent. Le matin du jour de la visite de Dubourg, elle avait, en époussetant le dessous de la cheminée, heurté accidentellement le balancier qui s'était arrêté. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait, et sa maîtresse l'en avait déjà vertement réprimandé. Craignant que celle-ci ne lui retirât, pour la punir, la permission d'aller chez ses parents, et cela d'autant plus que la pendule venait d'être remontée la veille, elle résolut de remédier, si c'était possible, à sa maladresse. Après avoir vainement cherché à tâtons le balancier pour le remettre en marche, elle essaya de soulever et de secouer la pendule, qui était en marbre et ornée d'un sujet en bronze. Mais elle la trouva si lourde qu'elle chercha, pour y parvenir, un instrument quelconque qui pût lui servir de levier. Ayant trouvé, non sans difficulté, ce qu'elle cherchait, elle souleva la pendule à quelques pouces de la cheminée et la laissa retomber dans l'espoir de remettre le balancier en mouvement. Ceci fait, il fallait remettre la pendule à l'heure et le verre qui protégeait le cadran n'était rien moins que facile à ouvrir. Après avoir cherché en vain un outil, elle emprunta au valet de chambre, sans lui dire ce qu'elle voulait en faire, un petit ciseau dont elle se servit pour forcer le couvercle, sur le bord en cuivre duquel elle laissa des traces de l'opération. Puis elle remit l'aiguille au jugé. Mais quelques instants après, elle s'aperçut que, dans le trouble que lui causait la crainte que sa maîtresse ne la surprît, elle s'était trompée en estimant le temps qu'elle avait mis à réparer sa maladresse et qu'elle avait remis l'aiguille en avance d'un quart d'heure. L'occasion de réparer sa méprise sans être vue de personne ne se présenta que tard dans la soirée. Cette fois, elle remit la pendule à l'heure exacte. Elle jura qu'au moment de la visite de Dubourg, la pendule avançait d'un quart d'heure et qu'elle marquait alors, comme elle avait du reste déclaré sa maîtresse, 9h20, tandis qu'il n'était en réalité, et comme l'affirmait Dubourg, que 8h20. Quand on demanda à cette femme pourquoi elle ne s'était pas présentée à la première enquête pour faire devant les magistrats cette déposition inattendue, elle répondit que, partie le lendemain matin pour un village lointain des Cornouailles, elle y était tombée malade et n'avait pas plus entendu parler de l'enquête et du procès que ceux qui l'entouraient, et que, si elle venait maintenant déposer sous serment de ces faits d'une importance capitale pour l'accusé, c'était grâce aux frères jumeaux de Dubourg qui étaient venus la trouver la veille. Il avait alors interrogé au sujet de la pendule et avait exigé qu'elle partît le lendemain même pour venir faire sa déposition devant la cour. Ce témoignage eut un résultat décisif sur l'issue du procès. La foule poussa un long soupir de soulagement lorsque la servante eut fini de parler. Selon l'usage, on l'interrogea contradictoirement et avec le soin le plus minutieux. On examina ses antécédents. On retrouva les marques qu'elle déclarait avoir faites avec le ciseau sur le couvercle du cadran. Bref, à une heure avancée de la nuit, le jury prononça, sans se retirer, un verdict d'acquittement. On peut dire, sans exagération, que le frère de Dubourg l'avait arraché à une mort certaine. Il avait été le seul à ne pas vouloir croire un instant au fait qui se rattachait à la pendule, et cela simplement parce que ces faits accablaient son frère. À force de questionner les gens, il avait fini par découvrir, au moment où s'entamait le procès, le départ de la servante. Il était parti tout de suite, n'ayant qu'un but, celui de retrouver cette fille et de lui poser l'éternelle question dont il poursuivait tous les gens de la maison de sa maîtresse. « Pouvez-vous me donner quelques détails touchant cette pendule qui conduira mon frère à l'échafaud ?» 4 mois après l'acquittement, on découvrit le véritable criminel. Un des individus de mauvaise humeur que fréquentait la victime avoua à son lit de mort qu'il était l'auteur de l'assassinat. Il n'y avait rien d'extraordinaire ni d'intéressant dans les circonstances du crime. Le hasard qui avait mis l'innocent en danger avait assuré l'impunité au coupable. Une misérable, une querelle de jalousie, l'absence de tout témoin au moment du crime, tels étaient en réalité les éléments vulgaires qui avaient composé le drame du champ du pardon.